connu. Quand tu arrives, il y a une pression qui se met sur tes épaules. Puis moi, dans mon cas, moi, mon père, c'était mon héros. Puis moi, dans ce temps-là, quand j'allais à l'école, je savais pas que la lutte s'était arrangée. Fait que moi, mon père, c'était mon vrai héros. Quand il battait Abdullah de Butcher, il battait pour le vrai.
Ben
Là, puis
oui.
il battait mais dans les yeux du monde qui connaissait un peu puis qui voyait un peu que la lutte ne pouvait pas être le vrai tout le temps. Là, t'sais. Fait que les autres, t'sais, ils ne prenaient pas ça à cœur autant que moi. Mais c'était une drôle. Mais je vais te donner un exemple de comment est-ce que mon père c'était pour moi. Dans ce temps-là, à tous les lundis soirs, c'était la lutte au Centre Paul Sauvé à Montréal. C'était comme ça. Puis une fois de temps en temps, tous les deux mois, il y avait le Forum de Montréal. Ça se passait des gros galas de 20 000 personnes. Mm-hmm. Mais pour ça, c'était 6-7 000 personnes au Centre Paul Sauvé tous les lundis soirs. Puis le dimanche soir, quand j'étais bien jeune, le dimanche soir, il y avait le journal Le Montréal Matin. Ça, c'était avant le journal Le Montréal. Il y avait Le Montréal Matin. Puis les adversaires de mon père qui luttaient lundi soir au Centre Paul Sauvé, mais ils venaient le dimanche soir à Saint-Sulpice, puis là, ils faisaient un genre de face-à-face, ce type de photographe prenait une photo. Là, c'est là que je voyais Joe Leduc arriver avec les cicatrices d'en haut jusqu'en bas, puis Abdoula, moi, j'avais 4, 5, 6 ans. Mais moi, j'avais du fun avec ça parce que quand le photographe, il venait, souvent, quand il prenait le face-à-face, j'allais me cacher entre les jambes à mon père quand il prenait la photo. Puis le lendemain matin, dans l'autobus, là, on était reconnus beaucoup à Saint-Sulpice ben quand oui. Je prenais l'autobus. Fait que là, je disais à mes chums dans l'autobus, j'ai Hey, avez-vous vu la photo lundi matin dans le journal? Là, il y en a bien qui me disaient, Oui, j'ai vu ton père contre Abdoula. Soit je non, je t'ai vu à tes jambes à mon père.
Oui, mais vous, est-ce que vous l'avez regardé longtemps à la télé? Parce que moi, je vous ai connu à la télé le dimanche matin, là. Vous étiez avec votre frère. Oui. Mais vous, est-ce que vous regardiez votre père à la télé évoluer?
Absolument. Ah, c'était ouais. La lutte sur le matelas. C'était les As de la lutte à TVA. C'était le samedi soir à 5 heures, la lutte sur le matelas. Puis d'ailleurs, on a suivi ça beaucoup. C'est beaucoup des gens de la 60, 70 et 80 là, qui vont se rappeler de tous ces bons souvenirs-là, la lutte sur le matelas. Mais moi, quand j'étais jeune, moi, je suis né en 60.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on était dans 70, c'était 77, 78, l'année de l'Expo à Montréal. Moi, je me souviens, l'année de l'Expo, Ivan Koloff, un gros Russe qui était reconnu mondialement, et c'était un gars de l'Ontario, mais c'est mon père, mon oncle Jean, qui l'avait fait devenir un Russe. Et qui l'avait, mais lui m'avait amené à la ronde. Mais tu sais, c'était vraiment un temps où j'avais 7-8 ans, où je regardais la lutte à la télévision tous les samedis. Puis même d'ailleurs, mon oncle Jean, avec, comment est-ce qu'il s'appelle, Jean-Jacques Fortin. Ceux qui se rappellent de ça, ils vont se rappeler de ça. Jean-Jacques Fortin puis Johnny Rougeau faisaient les commentaires sur Bordelaine. Puis souvent, j'allais m'asseoir, encore une fois, c'était pas entre les jambes de mon père, ce fois-là, c'était entre les deux commentateurs, j'allais m'asseoir sur Bordelaine. Puis là, je me revoyais la fin de semaine à la TV, là, tu sais.
Ah oui.
Quand je me voyais, mais, ah oui, moi, c'était extraordinaire de voir la lutte suivre ça le samedi soir à 5 heures. Puis tu sais que même dans les années 70 après, même des années tard, 70 et 80, quand la lutte, c'était le dimanche matin, hey, c'était grave. Là. Le dimanche matin, 11 heures, la lutte... Là,
c'était une religion.
Écoute, ils ont arrêté de faire la messe à 11 heures parce qu'il n'y a plus personne qui allait à la messe.
Exact.
Les curés voulaient écouter la lutte.
Ouais.
Non, mais c'était juste ça, c'est que c'était populaire. Là.
Ouais.
Oui, c'était populaire dans mon...
Quand vous avez décidé de faire de la lutte professionnelle, qu'est-ce que votre père vous a dit à vous et vos frères?
Ah, Seigneur, c'est une longue histoire, mais moi, te la faire courte. Moi, j'étais, quand j'étais jeune, là, mon surnom à moi, c'était Bones, un paquet d'os.
Okay.
Parce que moi, j'étais j'étais 6 pieds 4, de temps mon meilleur, 6 pieds 3 et demi, 6 pieds 4, j'étais grand comme mon père. Puis, mais quand j'avais 17 ans, c'est pas drôle, j'avais de l'eau dans mes culottes, tu sais comme on appelle. mais tu sais, on voyait plus les chiens et les bas, mais pas que les bas, on voyait la fin des bas en haut.
Ouais.
Mais tu sais, j'étais grand, mais j'étais maigre. Mais j'étais talentueux. J'étais vraiment talentueux dans la lutte quand j'étais jeune. J'ai imité à l'âge de 6-7 ans autour de la piscine, quand je me promenais avec un drap sur la tête, puis j'imitais Abdoula, puis je me promenais « Bobsy, Bobsy! » J'ai imité tout autour de la piscine, mais j'étais vraiment un passionné de lutte, tu sais. Puis donc, quand j'ai pogné l'âge, comme 14, c'était carrément commencé à 16 ans à lutter. Fait que moi, je me suis dit à 16 ans, moi aussi, je commence, mais à 16 ans, j'étais un paquet d'os. Donc, moi, j'étais plus court. Moi, j'étais juste 5 pieds 10 quand il luttait à son meilleur. Moi, j'étais 6 pieds 4. Fait que je n'avais pas un peu plus mec que lui. Fait que mon père, il arrêtait pas de me dire tout le temps, quand j'ai dit, ben, je vais commencer à lutter, ben, voyons donc. Entraîne-toi. Si t'as pas de bon sens, t'as l'air d'un paquet d'os. T'es en train de tuer. Puis, à un moment donné, c'est tellement drôle parce qu'à 17 ans, je me suis fâché. Puis là, j'ai été voir ma mère. Puis j'ai appelé le père de Bret the Hitman Hart. C'est la Hart Foundation, mm-hmm. Bret Hart, qui sont dans l'ouest à Calgary, la famille Hart. Puis j'ai appelé son Stu Hart. Puis là, j'ai dit à M. Hart, qui avait une grosse estime pour mon père et la famille Rougeau. Il ne m'avait jamais vu avant. Là, je l'ai appelé et j'ai dit Mr. Hart, j'ai dit j'aimerais ça venir lutter pour vous. Il dit ah, ouais, c'est quoi ton nom? Mais, mon nom, c'est Jacques Rougeau. Puis, il me dit ah, oui, Jacques Rougeau, il dit, tu parentais avec les Rougeau à Montréal? Je dis oui. Puis là, il m'avait donné une chance d'aller lutter là. Puis dans ce temps-là, Brett, il chauffait l'autobus, il ne luttait même pas encore, Brett. Puis, mais j'avais été voir ma mère.
Ouais.
Puis parce que mon père m'avait dit non, t'es pas prête. Mais j'avais été voir ma mère, puis j'ai dit maman, je veux que tu me passes 500$. J'ai dit, je te promets, moi, t'allais remettre, maman. Je te promets, puis j'avais parti à l'insu de mon père. Puis j'avais pris l'avion, puis j'ai payé ma première semaine d'hôtel. Puis j'ai commencé ma carrière comme ça. Puis là, avec les années, bien, c'est ça, au début, j'étais tellement petit, tellement grand. C'est-à-dire, j'étais tellement grand, mais tellement petit. Je peux m'en dire maigre, si tu veux. Mais j'étais acrobatique au bout, puis j'avais du flair. Tu sais, j'avais beaucoup de charisme dans la langue, tout. Fait que les promoteurs me gardaient pareil. Ils me faisaient battre tout le temps, mais les promoteurs, tu sais, trouvaient que je donnais des bons combats, puis je travaillais beaucoup la foule, tout. Puis c'est avec les années après ça que j'ai. Puis en lançant les 18, après ça, l'année d'après, je suis allé au Mexique. Puis après ça, en 19, après ça, je suis Kansas City. Puis après ça, Atlanta, la Georgie. Puis ça a pu lâcher après les territoires d'un après l'autre. C'est de même vraiment que je me suis. J'ai commencé ma carrière.
Mais vous avez dû vous entraîner, faire des poids et haltères. Parce que votre frère était un peu plus court, comme vous dites. Il était à 5 et 10, mais n'en demeure pas moins que. Tu sais, j'ai entendu un peu parler de votre frère. Là. C'était pas un doux non plus. Là.
Non. Mon frère, moi, c'est un vrai top. Mon frère Raymond, c'était le style un peu, il était Mad Dog Vachon un peu, tu sais, il était groundé, mon frère, à terre, tu sais, la lutte de base, il n'avait pas un meilleur que lui. Moi, j'étais plutôt acrobatique, moi, j'aimais ça faire les sauts périlleux du troisième, où c'est un petit peu plus dangereux,
okay.
Mais Raymond était tellement reconnu que même jusqu'à aujourd'hui, là, méchant tough, mon frère Raymond, là, je vous le dis, là,
ouais.
je l'ai vu devant une couple de gars, là, où ce que j'allais, moi-même, je tremblais dans mes culottes, puis Raymond, il arrivait face aux autres, puis, tu sais, il y avait des nerfs de fer, comme on dit, là. Tu sais, là, jouer le jeu, là. Tu sais, arriver, puis écoute, Raymond, m'a dit, quoi, il donne pas sa place, comme tu dis, là, c'est vrai.
Puis quand vous avez commencé à être un peu plus connu, vous et vos frères, tu sais, quand vous sortiez dans les bars, là, tu sais, c'était un monde qui était pas comme aujourd'hui, là. Dans les bars, les gens sortaient.
On sortait pas dans les bars.
C'était parce que les gens voulaient la chicane, ils voulaient vous essayer.
On sortait pas dans les bars. J'ai eu une leçon quand j'étais jeune. Non, on sort pas dans les bars. Quand tu étais un Rougeau, tu sors pas dans les bars. Quand tu étais un lutteur, à moins que tu es vraiment un vrai batailleur, puis tu aimes ça de battre, puis chercher le trouble.
Ouais.
Finir les soirées à coups de chaise sur la table, puis tout ça avec de la bière sur la tête, correct, mais c'était pas notre réputation qu'on avait. Puis d'ailleurs, c'était pas l'image que notre famille nous avait laissée, un peu. On avait une belle image de la famille Rougeau. On était pas plus fin, pas plus fou que les autres, mais on suivait ça à la lettre. Juste pour. Tu sais, comme on dit des fois, tu peux mettre les chances sur ton bord. Tu sais, si tu cherches. Mon père disait toujours un gars qui cherche le trouble, un gars qui cherche son homme, finit toujours par pogner son homme.
Ouais.
Tu sais, mais si tu le cherches pas, puis tu respectes tout le monde, mais il y a des bonnes chances que tu fasses un bon bout de chemin dans la vie. T'sais?
Parce que les lutteurs, quand ils étaient en ville, ce qu'on m'avait raconté, c'est qu'il y a des gens qui étaient un peu tête en l'air, disaient « M'allez l'essayer, parce que la lutte, c'est du fake. » Mais les gars se faisaient ramasser parce que un lutteur, c'est surentraîné. Là. Ça fait des prises.
Ouais, mais c'est surentraîné, mais c'est parce que oui, puis dans ce temps-là, dans les années 60-70, c'était des vrais toughs qu'il y avait dans la lutte.
Ouais.
Dans les années 80, c'est devenu plus des personnages. Et le monde sont venus plus à comprendre que c'est du théâtre cinéma. Quand la WWF est arrivée, oublie ça, là, avec des Coco Beware, avec des oiseaux sur ses épaules, puis des Jake son serpent, acteur Jim Duggan qui ont 2x4.
Ouais.
C'était tous des personnages qui sont venus, parce que c'était plus sympathique. Quand les Bushwhackers sont arrivés, là, ça a tout cassé. Là. Yay! Puis wow! Puis ça lichait tout le monde. C'était pas des tueurs, eux autres. C'était du bon monde, puis du monde des comédiens qui jouaient le rôle de lutteur. Mais dans les années 70, c'était le gars qui était, autrement dit, le gars qui était pas vraiment un tough, il avait jamais de chance dans la lutte. Parce qu'il osait pas le mettre en avant. Il osait pas le mettre en finale. Il osait pas le mettre en évidence parce que, justement, il avait peur que c'est un gars l'essayait à un moment donné. C'est que si tu pognes le meilleur lutteur de ta fédération puis il se fait planter dans un bar, il n'y a plus de crédibilité pour la lutte.
Exact.
Et il y avait un gars à Montréal qui était venu lutter dans ce temps-là. Il s'appelait King Tonga.
Ben oui.
Puis lui, j'ai embarqué dans la ring couple de fois avec. Là, je me suis senti comme une mouche, une tapette à mots. Il te ramassait, lui, là. Puis tu savais qu'il t'avait. Comprends-tu? Là, quand il te pognait, là, c'est reconnu comme un des gars les plus tough au monde, dans le monde de la lutte.
Ah, ouais.
Une fois, j'étais à Chicoutimi, à un moment donné, m'a compté ça. Je sais pas s'il y avait eu un problème avec quoi. Là, en tout cas, il est arrivé un soir, c'était moi et Raymond en équipe. contre Chicoutimi, contre Richard le Magnifique Charlemagne puis King Tonga. On embarque dans l'arène. Puis je sais pas que moi j'avais un spot de prévu avec Richard Charlemagne, puis une petite pause acrobatique avec Richard Charlemagne, puis mon frère en avait un avec King Tonga. Puis fait que Raymond embarque dans l'arène à King Tonga, ils font la petite pause, mais pour une raison ou une autre, King Tonga, il débarque pas de l'arène. Tu sais, c'est supposé être, au lieu de taguer Charlemagne, puis moi j'embarque avec Charlemagne pour faire ma pause, fait que moi, j'embarque dans l'arène, King Tonga est dans l'arène, commence à tourner en rond en avant de moi, puis là je regarde, puis je dis, get out! C'est comme sort! Puis là, ses narines sont venues grosses de même. Puis là, je te dis, j'ai vu comme un monstre en avant de moi se transformer. Puis quand on l'a fait, j'avais pas le choix. On a fait une prise de contact. Il est passé en arrière de moi. Il m'a pitché dans les airs. J'ai tombé sur le cou en arrière. Je me suis senti comme une plume. Puis là, quand j'ai tombé en terre, je me suis reviré de bord. Puis j'étais vraiment comme, qu'est-ce que je fais? Je me disais à moi, qu'est-ce que je fais? Il est 100 000 fois plus fort que moi. Il va me tuer. Là, je regardais dans l'arène. Puis là, il a simplement débarqué de l'arène. Il a commencé à marcher autour de l'arène, puis on dirait à faire comme un dinosaure avec les narines, tu sais, comme prendre son, reprendre le dessus. Sur, ça, il venait de. Comment on dit ça? Les fils sont touchés.
Ouais.
Et puis là, il a rembarqué dans l'arène, puis après ça, c'était. Lundi, quand je suis arrivé au Centre Paul Sauvé, ça, c'était arrivé peut-être un vendredi, samedi. Puis lundi, quand on allait chez nos payes au Centre Paul Sauvé, j'étais allé le voir, puis là, j'ai pris tout mon courage à deux mains. Puis là, j'ai été le voir, puis j'ai dit, Tanga, tu peux-tu te parler une minute, s'il vous plaît? Puis là, il m'a dit à moi, il dit. Il dit, what's up, brother? What's up, brother? Il fait tellement faim, puis là, j'écoute. J'ai dit, j'ai dit, on était d'une vraie bataille. J'ai dit, tu sais que je suis pas de taille avec toi, tu sais. Mais j'ai dit, je peux pas me permettre de te donner mon corps pour embarquer dans l'arène avec toi comme ça, puis d'avoir peur comme j'ai eu quand j'étais dans l'arène avec toi. Fait que j'ai dit, oh non, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Puis il s'est excusé long comme le bras.
Ah oui.
Puis après ça, on a eu une belle chimie, moi, puis lui, jusqu'à dans WWF, puis jusqu'à aujourd'hui, puis on se rencontre aujourd'hui, mais. Mais c'était un gars. Dans ce temps-là, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y avait des vrais toughs en lutte. Il y avait vraiment des vrais toughs. Lui, c'en était un, en tout cas.
Ouais, c'était-tu quelqu'un qui était plus grand que vous? Parce que, tu sais, je regarde des images. Moi, je me
Ouais.
souviens de King Tonga, mais je me souvenais pas de sa
Oui,
corpulence.
2,60, 2,60 à peu près, mais tu
Ouais.
sais, il était corpulent, là.
Ouais,
Regardez
exact.
les trappes, regardez les épaules. C'était un Samoan, genre, là. C'était un gars de Tonga, là. T'sais, on dirait que on ne se dit plus politiquement correct, là, comment est-ce que je le dirais, là, mais c'est ces genres de personnes-là, là, ça vient des îles, là, puis
C'était
c'est comme.
fort naturel, mettons.
Ils en ont marre des coconuts,
Ils en ont levé. Ils en ont levé pour se faire des bras. Mais est-ce
Ah, qui
que.
ont levé des palmiers avec.
Ouais. Est-ce que la chicane arrivait pour vrai aussi dans votre temps? Parce que dans le temps de votre père, des fois, les gars, ils saignaient, là, puis tu voyais qu'ils s'aimaient vraiment pas. La chicane arrivait-tu dans les rings?
Absolument, ça arrivait justement dans ce temps-là parce que les égos étaient forts. Tu sais, puis écoute, puis le monde, il faut que tu comprennes une chose, que même si la lutte est arrangée, que tu prennes le Canadien de Montréal, que tu prennes les Expos, que tu prennes n'importe quoi, si tu n'as pas une équipe gagnante, le monde, ils ne viennent plus te voir. Puis la lutte, c'était comme ça. Fait que si ton personnage était un personnage qui était plus ou moins bon, puis qui perdait souvent, mais tu vendais moins de photos, là, ça attirait moins de monde.
Ouais.
Puis, tu sais, fait que les égos, là, c'était dur des fois dans ce temps-là. Ils ne voulaient pas perdre la ceinture contre un autre pour une raison. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de marketing à faire, mais oui, c'était quoi ta question
La
originale?
bagarre arrivait pour vrai une fois de temps
Ah
en
oui,
temps, là.
c'est ça. Ben oui, ça arrivait souvent parce qu'il y a des gars, des fois, qui étaient obligés de perdre, mais ils savaient qu'ils étaient plus tough que le gars dans l'arène. Fait qu'il est malmené un peu. Tu comprends-tu? Il
Ben oui.
faisait mal, il faisait mal paraître. Mais le gars que lui, là, il gagne, et qu'il veut pas mal paraître, il est obligé de se défendre. Puis, il y avait une expression dans ce temps-là qu'on se disait donner un reçu. Tu sais, on se disait donner un reçu. Autrement dit, un gars qui mangeait un mauvais coup, ben, tu donnais un reçu. Tu y en redonnais un au gars pour lui montrer, là. C'est comme, hey, moi, tu me fais pas ça en moins, là. T'sais, il y avait beaucoup de ça.
Ah ouais.
Quand j'ai commencé ma carrière, avec, oui, c'est pas que j'étais pas bien là-dedans, moi. Parce que moi, j'étais un artiste. Je suis pas un vrai batailleur en vie. Moi, je suis un comédien sportif. Fait que j'ai eu beaucoup de fois qu'il y a eu des confrontations comme ça où que je me suis pas senti bien là-dedans. Là, que, t'sais, non, ça n'a pas été facile quand j'étais jeune dans ma carrière.
Ouais. Dans les années 80, quand vous avez commencé, est-ce qu'on pouvait vivre de la lutte et vivre très bien? Ça... Ouais.
Quand on était le lundi soir, on ne pas le sauver. Le mardi à Chicoutimi, le mercredi à Québec, le jeudi à Hull, le vendredi à Rimouski, le samedi à Granby, ou vers les fêtes. On se prenait partout, là, t'sais, puis on faisait de la belle argent dans ce temps-là, mais c'est surtout les promoteurs qui faisaient de l'argent.
Ouais.
Mais on faisait quand même de la belle argent. Tu regardes les années 70, fin 70, là, je pouvais faire un 1200, 1300 par semaine. Tu sais, c'était beaucoup. Tu
C'est
sais,
très
c'était
bon, ouais.
beaucoup comparé à un gars qui faisait 300 piastres par semaine, qui travaillait 40 heures par semaine ou 350 piastres. Mais c'était sous-payé au bout, parce que tu sais, t'avais les promoteurs faisaient tellement d'argent avec les photos, puis avec tout, tu sais, le marketing, puis tout, et les postes de TV. Dans ce temps-là, je me souviens, écoute, il arrachait des commanditaires, puis la télévision, dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, la télévision, il arrache beaucoup, mais parce qu'à cause de l'Internet, puis à cause de tous les réseaux sociaux, puis tout, mais dans ce temps-là, t'avais TVA, Radio-Canada, puis CFTF12, tu sais, t'avais trois postes de TV, là. Tu avais le 6 aussi, le CBC. Mais tu sais, les commanditaires étaient trouvables facilement, puis il y avait des gros commanditaires. Il y avait beaucoup de monde qui achetait de shows de lutte parce que tout le monde regardait la lutte. Ouais. Écoute, dans les années 70, oublie ça, là, on marchait dans un centre d'achat, on allait lutter maintenant à Capcha ou à Matane. On arrivait dans le centre d'achat dans la journée, puis des promoteurs nous demandaient, t'allais donc prendre une marche dans le centre d'achat dans le jour. Puis là, on faisait, parce qu'on t'attivait à tous les dimanches matin, là, ouais. La semaine prochaine, si Dieu le veut, là, qu'elle soit capantée. Fait que là, le monde, il nous voyait. Hein, ouais, il y a de la lutte à soir. Ouais. Tu sais, écoute, c'était aussi simple que ça, là. Tu sais, c'était vendeur au bout.
Est-ce que ça a été facile pour vous, la notoriété? Parce qu'à un moment donné, vous vous promiez dans une ville, puis les gens vous reconnaissaient, là. Comment vous avez géré cette notoriété-là? Est-ce que parfois, c'était difficile? Puis, tu sais, des fois, on est très entouré, mais dans le fond, nous autres, on est un peu tout seul.
J'aimerais donc ça pouvoir reprendre bien les affaires.
Ah oui?
Ah oui, oui, parce que, tu sais, la vie te montre des choses. Tu sais, les épreuves te montrent. Moi, je vois un gars qui, tu sais, le monde demande des fois dans la vie que c'est un gars intelligent ou c'est un gars qui est moins... Moi, l'intelligence, ça se mesure par l'expérience de vie.
Ouais.
Tu sais, c'est pas par le IQ, là. Tu peux avoir un gars qui a le plus gros IQ au monde et qui n'est pas intelligent. Et tu peux avoir le gars qui est juste moindrement un IQ ordinaire, mais qui a beaucoup de vécu. Et tu sais, fait que j'aimerais ça pouvoir retourner en arrière. Il y a beaucoup de choses que je changerais dans ma vie, tu sais, parce que veux pas... C'est impensable que tu restes normal quand partout où tu vas, puis le monde t'adule. Tu sais, comme, oh, wow, hey, genre, je peux-tu autographe, hey, genre, je peux-tu autographe. À un moment donné, tu commences à penser que t'es important. À un moment donné, tu commences à penser que t'es meilleur que les autres. Tu veux pas, puis ça, il faut que tu gères ça. Mais quand t'as 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, mon Dieu, tu connais rien dans la vie, t'as même pas de nombril sèche encore.
Ouais.
Tu sais, fait que c'est, oui, ça a été très difficile. Mais, m'a dit comme mon père dit une coupe de claques sur la gueule, mais maintenant un gars, il apprend.
Puis votre rapport, c'est une question indiscrète, tiens, votre rapport avec les femmes, c'était quoi?
Ah, ben, je poignais en tabarnouche.
C'était-tu difficile? C'était-tu une blonde dans chaque ville?
Non, moi, j'étais un amoureux, moi, trois
ou non.
J'avais des fans partout, mais moi, j'étais le genre de gars qui tombe en amour. Et bien oui, je sais pas pourquoi j'avais cette faiblesse-là. Moi, c'était une femme, puis tu sais, ça a toujours été comme ça. Puis j'ai emmené quelques femmes avec moi quand j'étais jeune, en voyage, quand je partais 6 mois, mettons, l'Alabama, je partais, puis je disais à ma blonde, tu me suis, viens avec moi, tu sais. Moi, il n'y a pas question qu'un soir, c'était contre mes principes de la vie. Okay. Tu sais, moi, j'ai été un gars qui était un petit peu niaiseux dans la vie, dans le sens que naïf, où ce que je crois que l'amour entre un homme et une femme, ça devrait durer une vie.
Ben oui.
c'était comme ça, moi, quand j'étais jeune. Fait que tu sais, moi, j'ai rencontré des problèmes là aussi. Mais en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans.
OK. je vais vous parler des gens que vous avez rencontrés, parce que là, j'ai été faire un tour sur votre page Facebook, Jacques Rougeau, et j'ai vu que dernièrement, vous semblez avoir rencontré Hulk Hogan. On dirait que c'est un de vos amis, Hulk Hogan.
Ben, c'en est un, définitivement. T'as-tu suivi un petit peu ma carrière, toi, Yannick, ou t'es un gars de radio qui a été demandé de me faire une entrevue?
Non, ben moi, je vous le répète, là, je veux dire, c'était un honneur de vous jaser, parce que mon père, il vous disait quoi faire dans les rings au travers de la télé. J'écoutais Hulk Hogan, j'écoutais les Frères Rougeau, j'écoutais Ricky Martel.
T'as-tu écouté quand Jacques Rougeau, il a battu Hulk Hogan à Montréal?
Là, vous
non,
perdez.
Oui. OK, ça, je te dis, t'es pas un vrai fan de Jacques Rougeau. Là, on va t'apprendre de quoi, là, une belle petite histoire que tu vas aimer. En 1997, Hulk Hogan, il lutte pour la WCW. Il a lâché la WWF, il est parti pour la WCW. Puis oui. Moi, j'ai ouvert les portes pour eux autres à Montréal.
OK.
Pour qu'ils viennent avec leur télévision, puis qu'ils fassent un événement à la WCW, mais à condition que je luttais contre Hulk Hogan en finale.
OK.
Et Hulk Hogan a accepté de lutter contre moi, puis il m'a laissé gagner à Montréal. Devant la foule. Je suis le seul Canadien à avoir piné Hulk Hogan, 1-2-3. Le seul Canadien, pas Québécois, mais Canadien. Puis Hulk Hogan a fait cette faveur-là pour moi. Puis c'est pour ça que toute ma vie, après ça, je l'ai tellement remercié, j'ai tellement fait de choses. Je suis allé le voir dans ses studios Hollywood, je suis allé le voir dans son, comment il appelle ça, dans son hangout à Clearwater. Il y a un club où ils font du karaoke. C'est là que tu m'as vu dernièrement sur
Ben
mon
oui, ben
Facebook.
oui.
Mais tu m'as-tu vu quand j'ai donné mon gros bec?
Ben oui, j'ai vu ça.
Écoute, c'est parce que lui, il m'a donné ma notoriété à faire ça après, là. C'est Battle Kogan de Jacques Rougeau, Battle Kogan, puis pas servir d'une chaise, puis d'une table, puis d'un objet non identifié sorti du maillot. Là,
Exact.
c'était une prise de lutte, là, la prise du petit paquet. Là. Un, deux, trois. Là. Puis le monde, c'était en délire. Là, puis c'était...
Ben
Fait que
j'espère.
lui, Hulk Hogan, pour moi, c'était le plus grand lutteur de tous les temps. Plus que The Rock, plus que tout le monde d'autre. Parce que le monde ne comprend pas. Là. Pour avoir un futur, ça prend un présent. Et pour avoir un présent, ça prend un passé. Puis Hulk Hogan, en 1993, a lutté devant 80... En 1987, il a lutté devant 93 000 personnes à WrestleMania 3 contre le géant Jean Ferré.
Exact.
Puis c'était la première fois qu'il voyait ça, le monde, dans le monde de la lutte. 93 000 personnes dans un édifice intérieur. C'était pas extérieur, c'était intérieur. Ça prenait des cartes de golf pour nous amener du vestiaire, moi et Primo, pour aller à l'arène. Puis c'était quelque chose, c'était une magnitude tellement grande. Puis Hulkamania, quand on allait en Australie, puis quand on allait en Europe, là, c'était un peu comme Michael Jackson quand il se promenait partout, là,
Ouais.
quand il était dans la folie. C'était la grosse affaire. Puis c'est lui qui est l'origine de toute la grosse popularité de la lutte. Le monde oublie avec le temps.
Est-ce que c'est
C'est
à ce
beau.
moment-là, pour ce qui est d'Hulk Hogan, puis le géant ferré, puis j'aimerais ça que vous me parliez du géant ferré aussi, mais c'est-tu à ce moment-là qu'il l'a décollé de terre?
Absolument.
Ah, c'est ça.
Hulk
Ben ça, je m'en souviens.
Hogan l'a levé à WrestleMania, c'était quelque chose, c'était extraordinaire. Mais tu sais, ça a été un événement, absolument. Et Hulk Hogan, en étant le plus gros icône de lutte au monde, pour moi encore aujourd'hui, puis quand je suis allé le voir à son karaoké l'autre soir, en plus d'aller le voir, il m'a reçu, il m'a mis en VIP dans la première rangée en avant. J'ai fait des éloges devant tout le monde. J'ai même chanté Jailhouse Rock. J'étais là en
Ben
avant dans son karaoké. Parce que tu sais que j'ai fait le Homard à comment ça s'appelle l'émission, les chanteurs masqués cette
oui.
année.
Oui.
C'est moi qui ai fait le Homard, mais il y a une histoire en arrière de ça parce que j'ai chanté Jailhouse Rock comme en étant comme Homard. Mais quand je luttais, dans mon personnage de Mountie, la police montée, j'ai eu un gros feud mondial, pay-per-view final, tout avec Big Boss Man. C'était la police américaine contre la police canadienne.
Ouais.
Et dans mon dernier match, là, où finalement on se rend compte, le plus gros match sur pay-per-view, on était au Madison Square Garden et la stipulation du combat, c'était celle qui perdait, fallait qu'il passe la nuit en prison. Fait qu'on se faisait menotter après le combat du cinquième étage jusqu'où jouent les Rangers de New York au Madison Square Garden, c'est le même étage. Puis le wagon nous amenait directement en prison pour passer la nuit-là. Puis on a tout filmé ça. Tu peux aller voir ça sur YouTube.
C'est
C'est vraiment
sûr.
cool.
C'est sûr
C'est
que je vais
vraiment
aller
cool.
prendre ça sur
Et
YouTube.
puis quand j'ai chanté Jailhouse Mask, c'est moi qui ai passé la nuit en prison. J'ai perdu.
OK. Puis Hulk Hogan, une fois que les projecteurs s'éteignent, puis vous êtes seul à seul avec lui, quel genre d'individu il est? Est-ce que c'est un gars qui est d'un naturel comme vous, un gars
Non,
sympathique,
il
un
est
bon
fin.
vivant? Ouais.
Absolument, absolument. Je ne sais pas comment ce qu'il a fait pour rester aussi humble toute sa vie. T'sais? Puis il a tellement été fin avec nous autres quand on est allé l'autre soir. J'ai senti, là, quand je l'ai pris dans mes bras, là, j'ai vraiment senti comme, hey, je prends un gars que c'est pas de la famille, mais j'ai passé ma vie avec. T'sais, dans le vestiaire, j'ai eu la chance d'ouvrir ces soirées de lutte, d'être des matchs avant lui. Puis j'oublierai jamais la relation que j'ai eue avec ce gars-là parce que il a toujours apprécié, il a toujours eu le code éthique de la lutte. Toujours à l'heure, toujours un code vestimentaire, toujours poli avec les fans. À 5 h du matin à l'aéroport, t'es fatigué, quelqu'un vient te voir. Hey brother, how you doing brother? Puis, tu sais, il s'est donné là, toute sa vie. Un peu comme les Rougeaux, un peu comme on a fait nous autres. Fait que lui, puis on avait une similarité de comportement, puis un respect qui s'est fait. Puis tu sais, je te dis ça de même, je te réserve, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une grosse bataille, moi, dans les vestiaires avec les British Bulldogs. Je sais pas si ça dit quelque chose, les
Oui,
British Bulldogs.
oui, oui,
Les
oui.
British Bulldogs, ils faisaient beaucoup d'intimidation. Puis ils ont commencé par m'intimider, puis rire de moi, puis ça, puis je me suis défendu. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça a reviré en grosse bataille, puis je me suis défendu. Et de voir ça sur Dark Side of the Ring, tu vois, l'histoire est forte en maudit. C'est connu mondialement dans le monde de la lutte, cette histoire-là.
Les avez-vous
Puis
plantés?
J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis dis-moi l'histoire. Mais Hulk Hogan, il y avait beaucoup des amis dans le vestiaire qui se sont fait intimider par eux autres. Puis quand moi, je me suis tenu, puis j'ai fait que sa carrière était finie, eux autres, après. Mais il y a eu un respect pour moi, monstre. Puis c'est tout ça après qu'il m'a laissé gagner à Montréal quand il est venu. Puis, puis contre moi. Fait que je sais que ça a l'enfer avec ça. T'sais, fait que moi, j'ai une affinité. C'est comment, j'ai une infinité. Comment on dit ça?
Affinité.
Une affinité avec ce gars-là, beaucoup, beaucoup plus profond. Fait que quand j'ai donné mon beau gros bec, là, il y a à peu près 2-3 soirs, là, ça voulait dire merci pour mon combat. Ça voulait dire merci pour tout l'argent que tu nous as fait faire dans WWF quand tu as attiré des millions puis des millions de personnes. Puis moi, je me souviens, moi, premièrement, on arrivait dans les vestiaires, là. Puis, tu sais, il y avait 3 shows par soir à la WWF, à travers du monde. Là. Tu peux être à Tokyo le même soir que tu peux être à Honolulu, puis tu peux être à Washington, D.C. Il y a 3 shows par soir qui se promenaient dans le monde quand on était là. 25 soirs par mois. C'était fou, là. Il y avait 3 crews, comme on dit, là. 3 équipes.
Ouais.
Puis la première affaire qu'on regardait, moi, vraiment, quand on arrivait dans le vestiaire, c'était, on allait voir la carte du mur, puis on allait voir, Hulk, es-tu sur la carte? Parce qu'on savait que si Hulk était sur la carte, on savait que c'était 20 000 personnes, puis c'était plein.
Ah ouais.
On savait qu'on ferait de l'argent.
Votre relation avec Hulk Hogan, là, vous nous en avez parlé. Géant Ferré, est-ce que vous l'avez connu longtemps?
Oui, moi, Géant Ferré, j'étais un de ses plus grands amis au Géant Ferré, moi, d'ailleurs. Un de ses plus grands amis.
Puis on nous dit
pas grandeur, pas grandeur, parce qu'il était 7 pieds 4, ouais. Moi, c'était 7 pieds 3. Mais lui, là, le Géant Ferré, c'était mon partenaire de crib. Tu connais-tu ça, jouer au crib?
Ben oui.
15-2, 15-4, 15-6, tu sais, c'est OK. C'est un jeu pour les vieux. Mais en tout cas, moi, je joue au crib, c'est tout le temps. Ma mère m'avait montré ça quand j'étais jeune. Il n'y a pas grand monde qui joue au crib. Il n'y a pas beaucoup de monde. Puis il n'y avait pas beaucoup de lutteurs qui jouent au crib. On était 3. Il y avait Arnold Scolin, l'agent. Il y avait Tito Santana, là, c'était Arriba. Je sais pas si tu te rappelles de lui.
Ben oui.
Puis il y avait moi. Puis, fait que quand on était dans la même ville, mais tu sais, on connaissait nos matchs, on était habitués de lutter avec les gars qu'on luttait avec, fait qu'on avait comme 2-3 heures à tuer dans le vestiaire, fait qu'à tous les fois que j'arrivais dans le vestiaire, le géant était assis, puis là, il me regardait, puis il était tout là de bonheur, il était échange. Puis là, il était assis, il me regardait, puis il me disait, il est temps. Fait que là, je me soyais, puis là, on jouait au crib. Puis la bonne affaire là-dedans, ce qui était super cool, c'est que quand on faisait beaucoup de vols internationaux, des vols de 4, 6, 8 heures de temps, mais moi, évidemment, nous autres, on était assis en classe économie en arrière, tu sais, on par la compagnie, mais lui, il était en première classe en avant. Mais parce qu'il était tellement gros qu'il pouvait pas louer le siège à côté de lui. Quand on décollait, il y avait toujours un agent de bord qui venait me voir en arrière et disait « Monsieur Rougeau! » J'étais là « Oui! » J'étais « Suivez-moi! » Puis là, il faisait monter en première classe. Puis j'allais voler en première classe, puis là, on jouait au crime tout le temps. T'sais.
Puis comment était-il dans son intimité, Jean Ferré? Est-ce que c'était un gentilhomme? Est-ce que c'était quelqu'un qui était timide? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'était
dans
quelqu'un qui souffrait?
Oui, c'est dans son jeune âge. Dans son jeune âge, il était très, très sympathique, puis tout ça. Mais à force de se faire regarder comme un monstre par le monde, puis à un moment donné, les commentaires qui venaient, puis en vieillissant, il était moins beau, là. Tu sais, puis il y avait des commentaires qui se faisaient qu'on puis à un moment donné, il s'est révolté. Puis à un moment donné, moi, quand, dans ces années-là, c'est triste à dire, j'étais avec dans l'avion, puis j'étais avec, comme je te dis, partout, j'étais avec lui, puis j'étais gêné par bout, là, tu sais, c'était comme, tu sais, le monde, il venait à côté, puis là, il dit, excusez, je peux faire un autographe. Il y a une grosse voix, lui, tu sais, puis c'était un monstre. Puis le petit gars, ou la petite personne qui venait voir, là, tu sais, c'était comme, il n'a rien savoir du monde, puis il buvait du matin au soir.
Ouais.
Tu sais, il se levait le matin, puis il buvait, là, il était plus heureux. Il était tanné d'être vu comme un monstre. Il était tanné d'être pointé du doigt. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais que t'es un freak, là. Puis là, tout le monde te traite comme un peu. Fait qu'à un moment donné, il s'est écœuré du monde. Puis là, ça a été comme... Les dernières années, ça a été très triste pour lui. Puis quand son père est mort, je pense que c'est un mois après qu'il est mort lui aussi. Ça a été un coup dur pour lui. Mais il y avait un ami qui s'appelait Frenchie. Il s'appelait Frenchie, puis il était en Caroline du Nord. Il y avait une ferme avec des chevaux. Puis je pense que lui, puis Arnold Scolin, puis moi, on était pas mal là, ses derniers amis, tu sais, qu'il y avait. Mais moi, j'ai toujours adoré le Géant Ferré parce qu'on jouait à l'argent au cap, en plus, on avait du fun. Il y avait une belle chimie. Là.
Mais les bières, on disait qu'il n'y avait pas de fond. Là. C'était un individu du matin jusqu'au soir qui pouvait s'enligner sans aucun problème. Il avait besoin de ça, lui, pour continuer sa vie.
Hey, écoute, faut que je te conte quelque chose. Je sais pas, moi, j'étais un drôle de gars. Il faut que je te conte ça pareil. Je sais même pas pourquoi je te dis ça. Mais qu'est-ce qui était un de ses gros trips à lui? Là? Ses gros trips à la fin. Excuse-moi l'expression, mais c'était de péter. Lui, écoute-moi, c'était pas des phares, c'était pas un fait qu'il faisait, c'était une bombe atomique. Puis c'était long. Puis là, écoute-moi, c'était comme... Tout le monde dans l'avion, tout le monde alentour avait le temps de regarder. Puis lui, là, il faisait ça. C'était pas l'odeur qui me dérangeait autant que le bruit. T'sais.
C'était le géant comme... ferré.
Mais c'était vraiment un géant, c'était un monstre. Écoute, quand je prenais une bière, là, c'était avec deux doigts. Là. Il prenait une bière avec ses deux doigts. T'sais, c'était fou, la grosseur de sa main. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté ça. Tu me rappelles des souvenirs.
Ben oui, ben en fait, vous nous en rappelez, puis merci de le faire. Là, je suis persuadé que tous ceux qui ont à peu près mon âge, puis déjà un peu plus vieux, puis même les plus jeunes, là, ils apprennent des choses, puis ils trippent. Moi, c'est vraiment la nostalgie, le géant ferré, les frères Rougeau, Hulk Hogan, il y en avait plein d'autres. Coco.
Ricky Martel, comme tu disais, Ricky Martel, ben le gars de Québec. Moi, j'en reviens pas jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, si je vais essayer de te parler avec beaucoup d'humilité, ça va être dur le prochain 2 minutes. mais tu sais, le Hall of Fame, là,
ouais.
Le Temple de renommée, là, c'est impossible que les Frères Rougeau et que Ricky Martel soient pas là-dedans. C'est absolument impossible. Ricky Martel, ça a tellement été un exemple dans la lutte. Il était champion dans la AWA, champion du monde. Il était, écoute, Canam, il était au Québec. Il était partout ce qu'il allait, Ricky Martel. C'était vraiment une belle image. Un gars qui prenait soin de son fils, qui est un très bon lutteur. Et puis, il a fait beaucoup, beaucoup de vagues dans le monde de la lutte. Beaucoup pendant peut-être 30 ans de temps.
Ouais.
Comprends-tu? Puis la même chose pour mon frère Raymond puis moi. Écoute, j'ai passé 11 ans, moi, dans la WWF. Toutes les personnes avec qui j'ai lutté, là, tout le monde, là, la Hart Foundation, les Rockers, Tito Santana, les gars que j'ai fait des angles avec, qu'on a lutté Big Boss Man, continuellement, soir après soir, là, sont tous dans l'enlevée. mais tu sais, la famille Rougeau ne l'est pas. Puis ça, là, excusez, là, je vais arrêter d'en parler, mais maudit que ça me frustre, parce que je me dis, même quand ils sont venus dernièrement, la WWF à Montréal,
ouais.
Ils sont venus, ils ont commencé à faire un beau sermon de la lutte, comment c'est important, tu sais, comment c'est les origines, puis on était dans le vidéo. Ils sont comme servis de notre notoriété encore pour montrer que la lutte venait de nous autres. Mais si vous voulez servir de notre notoriété, mettez-la un peu partout parce que mes amis, c'est pas juste au Québec que je suis connu, moi.
Exact.
Moi, je suis connu mondialement. Mes trois personnages, écoute, j'étais champion intercontinental, comme demandé. J'étais 3 fois champion du monde avec Pierre-Carl Ouellet, les Québecers. Puis avec mon frère Raymond, j'ai fait 4 ans tour du monde, 4 ans, comme les fabuleux frères Rougeau. Puis on a lutté contre les Hearts pendant 2 ans, les Rockers, tout le monde a qui, Greg the Hammer Valentine puis Brutus the Barber Beefcake, sont tous dans l'Hall of Fame, tout le monde a qui qu'on a lutté. Mais parce que j'ai eu un froid avec Vince McMahon, un désaccord, il y a plusieurs années, et j'ai jamais appuyé sur mon orgueil, et lui non plus, mais on n'est pas dans l'Hall of Fame. Alors moi, mon message, c'est simple, je voulais juste dire, Yannick, qu'on devrait pas mettre quelqu'un par rapport à nos relations personnelles dans l'Hall of Fame, on devrait mettre ce qui a amené au sport ou à la crédibilité.
Exactement.
Et voilà, on change le sujet. Excusez-moi, je vais revenir.
Puis Ricky Martel, il habite dans la grande région de Québec. Il est en affaires.
Bon.
Ben oui, c'est un bon gars.
C'est vraiment un bon gars. Il a toujours été tellement poli, puis fin, puis écoute, aimable. J'ai lutté pour lui. D'ailleurs, il y avait des parts dans la compagnie de lutte internationale avec Dino Bravo, Gino Brito, puis Frank Valois. C'est dans le temps qu'on luttait le dimanche matin à la télévision. Il y avait des parts là-dedans à un moment donné. Donc, Ricky Martel, c'est un icône, c'est un idole. Et tout le monde, que tu ailles au Japon, que tu ailles aux États-Unis, que tu ailles partout, tu parles de Ricky Martel en Europe, tout le monde le connaît autant comme si c'était à Montréal.
Tantôt, vous avez fait « À la semaine prochaine, si Dieu le veut! » Est-ce que vous aviez une belle relation avec M. Carpentier?
Absolument. Ouais. Écoute, on était ses petits chouchous, Edouard, moi, Raymond. D'ailleurs, quand on était dans la WWF, à un moment donné, quand on est viré, les 2 premières années, on était dans la WWF, c'était les frères Rougeau. Après ça, on a reviré vilain. On est devenus les fabuleux frères Rougeau, avec Jimmy Hart, avec son mégaphone, on est devenus des méchants. Puis quand on est venu avec méchant, Edouard, il nous avait pris quand on faisait les tapings de télévision à tous les mois, une fois par mois, puis Edouard descendait aux États-Unis quand on faisait les tapings de télévision. Je suis dans une place publique. Hein.
Il
n'y
a pas de problème.
Quand on faisait les tapings de télévision, Edouard, il descendait de Montréal pour faire les voice-overs, les commentaires, tu sais, pour la lutte de télévision RDS, puis c'était comme ça. Avec Guillaume, il descendait. Puis à un moment donné, Edouard était venu voir dans le vestiaire, puis il avait dit, « Hey Jacques, viens ici, là. Tu viens ici avec moi, là. Raymond, là, tu viens ici avec moi, là. » Et là, il nous a emmenés sur le bord du ring. Puis quand on est arrivé sur le bord du ring, il dit, Là, Raymond, là, il dit, tu t'en vas dans le milieu du ring, là, là, puis il dit, tu soulèves ton adversaire, là. Il dit, tu soulèves, là. Il dit, par les cuisses en arrière des fesses, là, puis tu soulèves comme ça, là, comme une prise de lousse, mais en dessous des fesses, là. Puis il dit, là, toi, Jean, là, il dit, tu montes, tu grimpes sur le troisième câble, là. Il dit, tu te montes debout, tu vois, moi, je regarde Edouard, je dis, comment? Il dit, oui, vas-y, vas-y. Ben, voyons donc, Edouard. Il dit, vas-y, écoute-moi, là. Il dit, vas-y, là. Puis là, il dit, là, Raymond, il dit, approche-toi un peu. Puis Raymond, ben, le gars, mais Raymond était dos à moi, puis le gars était face à moi. Et là, regarde, le gars était rendu comme à 7 pieds de haut, là, parce que Raymond, il l'avait en dessous des fesses, là.
Ouais.
Fait que là, il était rendu. Fait que là, il me dit, moi, je le regardais, puis j'étais en haut du troisième câble, j'étais à peu près à 12 pieds dans les airs, là. Puis là, je regardais, puis là, il me disait à moi, il disait, Jacques, tu vas sauter, là, il dit, tu vas y mettre tes couilles dans le visage. Là, il dit, tu vas y mettre tes couilles dans le visage. Puis là, j'étais là, puis là, je le regardais, je disais, hein? Je disais, ben voyons donc, c'est impossible. Juste une petite seconde. I just wanted to say, miss, excuse me, miss, I'm on a live podcast around the world. I don't mean to interrupt. Is it possible just to maybe keep it down just a little bit? I'm almost finished. I'm so sorry. Thank you so much. I'm in Quebec City right now. Quebec, say hi to Orlando.
Hi, Orlando.
Hi, Orlando. Yes, sir. Thank you. Fait que ça pour dire que...
Fait que les couilles d'en face de l'individu. En
course, il appelait ça la bombe québécoise. Et les vrais fans de lutte, et si tu vas voir, si tu vas sur Internet devant toi, là, va sur ton laptop, bon, ouais, la bombe québécoise, les frères Rougeau, c'est Édouard Carpentier qui nous a donné ça, ce move-là.
Incroyable.
Incroyable, si Dieu le veut.
Oui, mais
si monsieur... Jacques le veut.
Monsieur, Carpent...
si
Jacques le veut. Monsieur Carpentier, c'était tout un athlète aussi. Est-ce qu'il a lutté avec votre père? Il a lutté du temps de votre père, du moins?
Du temps de mon père, puis du temps avant mon père, puis du temps avec moi aussi. Il a fini sa carrière, puis il luttait encore quand je luttais, Edouard.
Ah oui, OK.
J'ai lutté sur les mêmes cartes que lui, Edouard. Sa carrière était très longue. Je ne sais pas si tu vois la bombe québécoise avec les fabuleux frères Rougeau. Si tu vois les frères Rougeau, la bombe québécoise, je ne sais pas s'ils montent. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des fans. Si tu demandes à des fans qui t'envoient ça, ils vont te le montrer, le saut là, du troisième câble. Tu dois avoir plein de fans qui vont t'envoyer ça. Là, puis on va continuer, puis tu vas recevoir ça. La bombe québécoise, c'est Edouard Carpentier.
Mais je me suis pris des notes, puis il y a plein de choses que je vais aller revoir. Mais M. Carpentier, c'est ça, il luttait du temps où vous avez commencé.
Ah oui, mon Dieu. Moi je pense que je n'étais même pas au monde d'Edouard Lutet. Edouard Lutet dans les années, je pense, 50. Moi, je suis venu au monde en 60. Fait qu'Edouard Lutet dans les années 50, mais à Paris, en Europe. Puis mais aussi, avant de commencer à lutter, juste que vous sachiez, Edouard Carpentier, c'était un saltimbanque. C'était un gars qui faisait des anneaux puis des affaires, tu sais, des comment on appelle ça, dont un clown. Pas un clown, mais un comment? Il était dans un cirque, c'est ça. Il était dans un... C'est ma blonde qui me donne des cues. Puis là il était dans un cirque, c'est un saltimbanque, mais il faisait des acrobaties. Puis c'est là qu'ils l'ont trouvé, puis ils l'ont fait devenir lutteur. Fait que oui, Edouard Carpentier. Mais qui a pas adoré Edouard Carpentier qui finissait les émissions à la semaine prochaine, si Dieu le veut?
Ah, ben, hein, c'était, comme on l'a dit tantôt, c'était une véritable religion. Dernière question, puis ça, c'est ma question à moi. Pour un gars comme vous, un gentilhomme comme Jacques Rougeau, c'est-tu plus facile faire un vilain ou un bon?
Ben là, t'es bien fin de m'avoir dit un bon garçon comme moi, un gars bien gentil, mais j'ai mes journées, crée-moi. En tout cas, tout ça pour te dire que c'est toujours plus le fun d'être vilain.
Oui. Hein.
Mais oui, parce que moi, je pense qu'en dedans de moi, là, j'ai un petit peu de vilain, puis il faut que ça sorte. Puis m'a dit comme histoire, c'est quand on était, on luttait, c'était le fun quand on était bon au Québec. Le monde nous adulait, c'était le fun d'être des héros.
Ouais.
Mais quand on est arrivé dans la grosse ligue, là, le monde, ils se foutaient bien de deux Québécois. Là. Tu comprends-tu qu'eux autres sont patriotiques aux États-Unis, ici, peux-tu te l'expliquer? Là? Mm-hmm. Fait que quand on arrivait, moi, après moi, t'as deux bons qui arrivaient de Montréal contre deux Américains, que même si c'était des vilains, c'était des Américains. Hey, on se faisait tellement dire souvent, moi, après moi, quand on est arrivé dans WWF, « Go back to Canada! Go back, you French frog! » Puis on s'est fait crier des affaires, tu ne créerais pas. Soit la... Puis à un moment donné, quand Vince McMahon nous a suggéré de revirer vilain, je me suis dit... Ça a pris une journée là, avant de comprendre ce qui venait de se passer. Là. Puis après ça, là, j'ai compris que hey, là, j'ai eu du fun. Hey, j'ai eu du fun. Moi, on avait du fun. On arrivait là, à la télévision nationale aux États-Unis, à grandeur du pays. Puis là, on disait « Hi, I'm Jacques! » Puis moi, on disait « And I'm Raymond! » Puis on disait « We're the fabulous Rougeau Brothers! » Puis là, on disait « Hey, we'd like to take this time. » On aimerait ça prendre ce temps-là pour vous souhaiter... Une bonne Saint-Jean, mettons. Mais tu sais, au Québec, là, c'est le 4 de juillet aux États-Unis. Mais tu sais, juste pour mettre en contexte. On vous souhaite une bonne Saint-Jean aujourd'hui, pendant que c'était la fête du Canada, le premier. Tu sais, on mélangeait les dents. Puis le monde t'en tabarnak après nous autres. Parce qu'ils sont patriotiques, tu sais.
Ben oui.
Puis là, nous autres, hey, on est des Américains. On avait un petit drapeau de rien. On se moquait d'eux autres. On est fiers d'être Américains, mais le drapeau n'était pas plus gros que ma main, tu sais. Puis on se promenait, mais on s'est moqué d'eux autres. Puis quand après ça, écoute, on a même fait une chanson, là. On a All American Boys, qui est une chanson épique. Si tu t'en vas, All American Boys, tout le monde dans l'UQ connaît ça. C'était la chanson qu'on avait pour entrer. On a mis un refrain en français. Au monde, ils sont les pires. On aime les faire fâcher quand on dit « We love the USA. Hey, we're all American. » Écoute, on avait un refrain en français qu'on avait fait avec Jimmy Hart, parce que Jimmy Hart composait nos chansons, quand on des lutteurs en ce temps-là. Puis on avait du fun. Ah, c'est plus qu'on avait du fun. Fait que oui, écoute... c'est bien plus le fun d'être un vilain que... Puis mon père m'avait dit quand j'étais jeune, c'est tellement drôle, parce que mon père m'avait dit à moi quand j'étais jeune, il dit, tu sais, moi, après 5 ans de lutter, quand j'étais lutté contre un bon, là, je disais à mon père, je pense que je suis bon, là. Puis là, mon père, il me disait, tant que tu n'auras pas lutté vilain, là, il dit, tu ne seras pas un vrai lutteur.
Oh.
Parce que pour voir les deux côtés.
Ouais.
Puis dans ce temps-là, le monde ne savait pas. Là, je vais t'apprendre quelque chose, c'est sûr, Yannick, là, je le sais, là, c'est du catch à son meilleur. Non, mais je vais t'apprendre quelque chose, Yannick, là, c'est de la lutte à son meilleur. Savais-tu que dans ce temps-là, les années 70, les années 80, tu rentrais dans l'arène, c'était pas un scénario écrit avant. Là. Tu rentrais dans l'arène, et puis c'était le gros tata, là, le méchant, le gros nono, le gros buveux de bière, là, le gros qui avait de l'info, c'est lui qui collait tout le match au complet.
Hein?
C'est le méchant qui collait tout le match. C'est lui qui dictait le pace. Quand tu prends over, quand tu commences à perdre, quand tu commences à te faire maganer, quand c'est le temps de revenir, quand c'est le temps de shiner. C'était le vilain qui collait tout. Fait que pendant que tout le monde pensait que c'était des caves, les gros vilains, c'était eux autres qui étaient les génies.
Wow! On va prendre quelques minutes pour parler de Lutte Academy, si vous le désirez, parce que c'est votre nouveau bébé, ça, Lutte Academy. Vous tentez
là,
de
comment
faire...
Comment vous voyez encore, parce que tu ne connais pas mon projet, là, c'est correct, tu peux me citoyer pareil.
Non, je le connais. En passant, là, j'ai regardé tout ce que vous m'avez envoyé hier.
Ouais, comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu as trouvé de la présentation? Parce que je vais t'expliquer après qu'est-ce qui se passe.
Là, j'ai regardé tous les lutteurs que je connaissais d'antan qui parlaient de votre projet, puis qui vous souhaitait la meilleure des chances. Puis j'ai regardé les vidéos d'accueil. Puis là, je vois
là,
que...
je vais t'arrêter tout de suite, Yannick, parce que je sais qu'on va manquer de temps. Fait que là, je vais te laisser arrêter de regarder tes notes, puis regarde-moi en place.
Okay.
Regarde-moi ici, je vais t'expliquer quelque chose, Yannick. C'est bien important.
Moi, me faire parler de même dans un ring, là, ça va pas, là.
Ah non, mais on n'est pas en ring, oui, correct. Je te parlerai pas de même en personne, n'inquiète pas. C'est juste parce qu'on est loin.
Ben oui.
Non, écoute... Fait que là, il faut que je t'explique qu'est-ce qui se passe.
Ouais.
Star Academy.
Oui.
Tu sais qu'est-ce qui est arrivé avec Star Academy?
Oui.
Avec les gagnants, le chanteur Céline Dion, Centre Bell, puis tout ça, quel beau prix, puis tout ça.
Oui.
Et à un moment donné, pendant mes podcasts, il y a une couple d'années, pendant le COVID, là, je me suis dit, je fais des podcasts avec des artistes, avec toutes les vedettes de partout au Québec. Puis à un moment donné, j'ai Marie-Hélène Tupper dans mon tiki. Puis là, elle commence à me parler de Star Academy. Tout. Puis là, à la fin du podcast, elle est partie. Moi, je regarde ma blonde, je dis, imagine-toi si on faisait ça avec de la lune. C'est un Star Academy.
Ouais.
Où c'est une place, où tu arrives à une place, là, où les lutteurs s'affrontent, puis là, c'est le monde qui vote pour voir qui garde. C'est pas le boss qui dit, hey, toi, tu gagnes, toi, tu perds, toi, on te garde. Toi, tu... Puis là, j'ai été chercher des commanditaires. J'ai été chercher 4 commanditaires de 5 000 $ pour les gagnants. J'ai demandé à tous les lutteurs indépendants du Canada de m'envoyer une petite vidéo de 30 secondes de s'inscrire. Et puis là, après ça, on a choisi les meilleurs. Puis on a commencé à faire des éliminations au Club Soda à Montréal. Tu me suis-tu, là? Je te regarde aller là-bas, regarder tout ça. Mais tu me suis-tu, là, Yannick?
Je vous suis.
OK, il faut que tu me suives. C'est important, là, parce qu'en ce moment, c'est le plus gros concours au monde. Partout sur la planète, là. Tout le monde en parle partout, là. Parce que l'année passée, mes 4 gagnants ont gagné 5 000 $ puis ont été passés 3 mois à l'école de lutte américaine de Nightmare Factory, où ce que les 3 coachs sont QT Marshall de la AEW, Billy Gunn de la AEW et Cody Rhodes, le gagnant du Royal Rumble de la WWE, puis qui s'en va en finale à WrestleMania.
Mm-hmm.
Lui, c'est des coachs qui te prennent pendant 3 mois de temps à l'automne, les gagnants, pour leur donner une chance pour apprendre à lutter. Et puis l'année passée, c'était comme ça. Et ensuite de ça, cette année, le concours est venu tellement plus gros. J'ai tellement plus de commanditaires. Vous pouvez tout aller voir sur lutteacademy.ca. Ils sont tous là. Les 3 gagnants cette année vont gagner 10 000 $ puis ils vont aller passer 3 mois au Nightmare Factory à Atlanta, en Géorgie. Puis tu sais, mon père, là, écoute bien, Yannick, les deux choses les plus importantes que m'a dit dans la vie aujourd'hui, c'est là, là. Quand j'ai commencé à lutter, mon père m'avait dit 2 affaires. Pour réussir dans la lutte, ça prend 2 affaires. La première, c'est être au bon moment à bonne place. Puis la deuxième, c'est connaître le bon monde. Puis là, là ceux que j'envoie à Atlanta là, pour les grosses ligues, là, se faire entraîner par eux autres, sont à bonne place au bon moment. Là. Moi, je ne peux pas leur avoir des permis de travail, des papiers pour aller travailler aux États-Unis. Puis c'est ça le gros problème des Canadiens en ce moment. Ils ne sont pas capables de lutter aux États-Unis. Ils n'ont pas de papier de travail. Mais ce que je peux le faire, c'est les amener là 3 mois de temps puis se faire regarder par des meilleurs du monde. Puis si les meilleurs du monde te regardent puis ils voient quelque chose dans toi, puis ils voient que tu as du potentiel, ils parlent à leur boss, puis eux autres, les boss, vont avoir vos papiers. Tu comprends-tu? Puis c'est ce qu'on faut. Là, ça commence à se titre, mais...
Oui.
Puis là, puis QT Marshall, un des boss, un qui est propriétaire du Nightmare Factory, imagine-toi, donc là, on a les quarts de finale le 7 de mai, le 4 juin, c'est les quarts de finale. Après ça, le 20 septembre, le 20 août, c'était les semi-finales, il va en rester 20, là. Puis dans les 20, là, il y en a 10 qui vont être éliminés sur l'écran géant. Puis c'est QT Marshall d'Atlanta qui sont là sur l'écran géant puis qui élimine tout ça. Là. C'est lui qui fait toutes les éliminations de l'école du Nightmare Factory Atlanta. Mais dans les 10 qui vont être éliminés au mois d'août, QT Marshall, vu qu'ils ne passeront pas en finale, il y en a juste 10 qui vont passer en finale au mois de septembre, c'est le 17 septembre, au Club Soda. Mais vu qu'il y en a 10 bons qui vont se faire éliminer, QT Marshall nous a donné un bonbon cette année. Il a dit, moi, il pense que je vais éliminer les 10 au mois d'août. Là. Et je vais en choisir un de la gang. Puis il dit, au mois de septembre, en finale, ils vont lutter contre moi.
Oh!
C'est un lutteur mondial.
Ben oui, là, ben oui.
Puis la première fois qu'il va venir lutter à Montréal, il n'a jamais lutté à Montréal, puis il va venir lutter contre un des finalistes, des semi-finalistes de lutte académique. Fait, quelle chance que tu ne peux pas avoir de plus que de lutter avec un gars qui est dans une grosse ligue, puis que lui, si tu luttes, puis tu fais une belle job, puis il aime travailler avec toi, bien, ça l'ouvre des portes.
OK. Puis ça, vous faites ça à chaque année, Lutte Academy, là.
Ben, c'est ma deuxième année cette année. Okay. Puis ça l'a comme doublé. Écoute, l'année passée, là, quand j'ai envoyé les vidéos partout, là,
oui.
Il faut que je te le dise, il y a bien des haters, puis il y a bien des haineux dans notre business, moi te le dis. Puis il y a monde qui ont commencé à dénigrer le projet, puis ils ont dit, ah, c'est pas bon, il n'y aura pas d'argent, puis il n'y aura pas ci. Puis l'année passée, quand mes 4 gagnants ont collecté les 5 000 $, puis ils ont été passés 3 mois à Atlanta, puis ils ont été à Toronto pour le gros gala de la AEW, puis les 4 ont lutté, mes 4 gagnants, sur le show à Rampage puis Dynamite cette année, et ils ont tous eu 4 figurines de lutte. Tu sais, des figurines, ils sont fait faire des figurines de lutte.
Ouais.
Puis à chaque de mes 4 gagnants, quand tout ça s'est arrivé au mois de septembre l'année passée, ben là, tout le monde est arrivé, puis il y a eu une grosse crédibilité qui s'est faite. Puis cette année, parce que l'année passée, il y en a 19 qui se sont inscrits du Canada et 21 du Québec. Et cette année, quand j'ai envoyé les inscriptions, il y en a 70 qui se sont inscrits, puis seulement 11 du Québec, et puis 69 du Canada. Ils sont tous passés le mot comme « Hey, il y a 10 000 piastres à gagner, en plus de ça, Jacques Rougeau, il paye, en plus de ça, 3 mois Nightmare Factory, ça arrive pour le vrai ». Et il dit, moi, fait que là, ça a fait une crédibilité monstre. Alors, moi, là, avec ma notoriété, Yannick, ce que j'ai fait depuis 2 ans, j'ai fait des podcasts. J'ai fait des podcasts en Angleterre, en Europe. J'en ai fait un à NBC ce matin à Boston. J'ai fait partout dans le monde. Puis, je fais connaître notre talent local. Je fais connaître tous les lutteurs canadiens partout autour du monde. Fait que quel beau tremplin que c'est, ce projet-là. Et l'année prochaine, je te donne un scoop, parce que j'aime ça donner des scoops quand je fais un podcast, c'est le premier qui va savoir ça, mais probablement, fort probablement, à cause de l'intérêt et du succès jusqu'à date de cette année, parce qu'on a déjà 50 000 $ de commandite de rentrée, 20 000 pour les billets d'avion de partout au Canada, et 30 000 pour les gagnants. On a déjà atteint notre objectif. L'année prochaine, on va ouvrir un tournoi au Mexique et aux États-Unis pour le Canada.
Wow.
Ça va être l'Amérique du Nord. Les meilleurs lutteurs d'Amérique du Nord vont s'affronter. Puis on les met dans la... C'est extraordinaire comme projet.
Ça, Jacques Rougeau, c'est votre héritage, là.
C'est ma vie.
Ouais, c'est ça. C'est l'héritage que vous voulez laisser, c'est-à-dire de créer une nouvelle génération de lutteurs qui vont pouvoir parcourir le monde puis pratiquer leur métier.
Oui, puis tu sais, des gars comme Kevin Owen, tu sais, qui sont dans WWE en ce moment,
ouais.
Faut pas oublier, c'est moi qui l'ai entraîné. À l'âge de 14 ans, son père me l'a emmené chez nous, puis à 14, 15, 16, 17, 18 ans, c'est moi qui l'avais à moi. J'ai montré comment ramper, j'ai montré comment marcher, puis j'ai montré comment courir, puis j'ai montré comment parler. C'est un microphone. Puis aujourd'hui, c'est rendu un champion.
Ouais.
Comprends-tu? Fait que j'ai eu la chance avec lui. J'en ai d'autres comme ça que j'ai pu placer comme ça dans des ligues indépendantes. Mais mon rêve à moi, là, en ce moment, c'est de pouvoir passer le flambeau à des jeunes talents québécois. Puis on en a, qui existent. Je peux-tu nommer une couple de gars qui sont
allez-y,
au Québec?
Allez-y.
Mathis Mire, OK, un Québécois. Mali Pantera Dallaire, elle vient de Jonquière.
Ben oui.
Stephen Maine, c'est pour ça. Carl Jepson, Catherine Chouinard de la lutte FML à Saint-Jean-sur-Richelieu. Carl Zachary, qui vient des Autochtones, qui est un vétéran de lutte. Björk Akin, qui vient de la Rive-Sud. John Gonzalez, Johnny North. Ça, eux autres, là, j'ai pas le droit d'avoir le favori dans mon concours, mais j'en ai parce qu'ils viennent ici. mais je vais être juste avec tout le monde.
Ouais.
Mais j'aimerais ça qu'il y en ait. On a trois gagnants, on a une femme puis deux hommes. Puis j'aimerais ça en voir au moins un de ceux-là de chez nous qui repartent encore. Parce que l'année passée, mes quatre gagnants, là, il y en a eu un de l'Ontario, Matt Black. Il y en a eu un des Maritimes, qui s'appelait Chris Dillon. Mais il y en a eu deux du Québec. Il y a eu Jeremy Prophet qui a gagné, puis Elisabeth. Jessica Black, qui est une professeure d'école à Montréal. Puis on a eu 2 sur 4 l'année passée qui sont partis passer 3 mois à Atlanta puis qui ont gagné 5 000 $. Fait que j'aimerais donc ça qu'il y en ait un de ces 11-là, parce que là, aujourd'hui, il y en avait 71 qui sont inscrits cette année. On en a retenu seulement 34, puis il y en a 11 là-dedans qui sont du Québec des 34. J'aimerais donc ça encore cette année. Mais regarde, l'année passée, là, mon rêve n'a pas été réalisé. Oui, ils ont eu toutes sortes d'affaires, toutes sortes de beaux prix, mais moi, je veux qu'il y en ait un qui se rende dans les grosses ligues.
Ben, on vous le souhaite,
C'est ça que je veux, moi. Ben, je leur souhaite un autre. Moi, oui. Moi, ma vie est finie, là.
Ben, non, arrêtez de vous êtes encore en forme. On invite les gens sur lutteacademie.ca pour plus de détails.
En tout, voir les vidéos, tu peux cliquer ces photos, tu peux voir les personnages, tu peux voir, écoute, c'est fou, là, je me suis pris des notes, là. En tout cas, écoute, c'est le Club Soda pour les billets, s'il y en a qui veulent des billets. Parce que les billets sont en vente au clubsoda.ca, mais venez vivre cette télé-réalité-là de lutte. Où est-ce que c'est formidable de voir un gars aux États-Unis qui est sur l'écran géant à chaque show, qui choisit. Puis là, cette année, là, ça va être tellement fou, là, Yannick, parce que contrairement à ce que le monde pensait, le monde il disait, c'est sûr, genre, qu'il va protéger du monde, il va mettre un ben bon contre un moins bon.
Ben
là, c'est sûr que ben bon va se rendre en finale, là, ça va être excitant, mais c'est pas ça que j'ai fait, Yannick. J'ai pris mes meilleurs, là, puis encore au final, je les ai mis face à face. Puis là, je me suis dit, il y en a un qui va partir avec une possibilité de gagner 10 000, puis il y en a un autre qui va prendre l'avion en Saint-Jésus, puis c'est fini pour lui.
Ouais.
Fait qu'imagine-toi au Club Soda devant 400 personnes, là, ça va être comme un dungeon. Là. Puis QT Marshall va être à Atlanta sur l'écran géant, là, puis quand le combat va finir, là, les 400 personnes vont regarder l'écran, là, les deux lutteurs vont regarder l'écran, là, puis leur vie est dans leurs mains, là, leur futur. Là. Puis ils vont regarder l'écran, puis ils vont QT qui va dire, oui, je t'ai aimé, toi, t'es charismatique, toi, t'étais bon, mais je vais prendre toi. Puis l'autre, il va avoir... l'année passée, on en a eu une couple qui ont broyé des personnages, ben oui. Tu sais, parce qu'ils ont été éliminés. Mais là, cette année, pour 10 000 $, là, même j'avais le goût de m'inscrire, moi, avec.
Donc, lutteacademie.ca pour plus de détails. Ça a été un plaisair de jaser avec vous, M. Jacques Rougeau. J'espère qu'on aura l'occasion de...
Arrête de vous voyer, Yannick. Arrête de vous voyer.
Ben oui, mais là, mon père m'arracherait la tête si je vous tutoyais. Ouais.
Mais si tu me tutoierais, là, je te considérerais comme mon chum.
Bon, ben parfait. Je vais te tutoyer, Jacques. Puis si t'es de passage à Québec, tu me fais signe. C'est sûr et certain que t'as une place à l'émission, que ce soit le midi ou le soir. T'as un ticket gratis. Là, je vois que t'es en Floride. Là, ça a l'air de bien aller, tes affaires. Là. Ça a été...
Ouais, ben, je suis à Orlando en ce moment. Mais on part demain. On quitte demain. Justement, je monte au Nightmare Factory à Atlanta. Là. Je m'en vais retourner à l'école pour finaliser une coupe d'affaires pour les gagnants de cette année. Mais moi, ce que j'aimerais faire avant de partir, oui. Yannick, si jamais tu es de passage à Montréal, viens voir un show au Club Soda, puis je t'assis en avant VIP. Viens voir ça, tu vas te triper, mon homme.
Ça va me faire plaisir. Puis si vous voyez Hulk Hogan, là, disait que Yannick Marceau, il l'aime bien gros aussi, autant que j'aime Jacques Rougeau.
Okay.
Merci beaucoup.
M'essayer de l'avoir sur ton podcast. Ok, j'ai compris.
Salut, merci.
Salut, Yannick.
Salut, bye bye. Bonne soirée. Merci.
Marceau, le soir. Le soir.
Leclerc Communication, ben ça c'est nous autres, on est à la recherche d'un développeur PHP, pas un animateur radio qui parle à la radio comme moi, là, mais un développeur PHP. Tu connais Cake PHP, t'as quelques heures à nous consacrer d'ici la refonte de nos plateformes web, ben on cherche quelqu'un pour faire de la maintenance et des petits projets à la pige. Postule à carrière@leclercommunication.ca, c'était la personne qu'on recherche, au plaisir de te rencontrer.
Du jamais vu chez lavue.ca, du 28 février au 4 mars. On vous offre la monture gratuite, oui, oui, même sur les grandes marques. Examen disponible ou apportez votre prescription chez lavue.ca. Détails sur place, Véronique Michaud, opticienne. Toujours à la recherche d'activités uniques pour amuser toute la famille à la semaine de relâche, planifiez votre visite au village nordique du port de Québec. Tous les jours, du 3 au 12 mars, on vous invite à participer à de nombreuses activités et à venir vous amuser en famille dans notre aire de jeu. Il y a de quoi avoir du fun pendant des heures au Village Nordique. Réservez votre place dès maintenant en visitant levillagenordiqueavecuncas.com.
Vous pensez à changer d'appartement? Vous payez trop cher et vous manquez de services? Logibourg a le logement parfait pour vous. Des logements au meilleur rapport qualité-prix situés dans des secteurs de choix et surtout un service à la clientèle à la hauteur. Trouvez le logement parfait au logibourg.com.
Attention! Le complexe du Phoenix explose tous les jeudis. 4 choix de tartare à 5$ et 5 choix de martini à très petit prix. Tous les jeudis au complexe du Phoenix, rue du Parvis. phoenixduparvis.com.
Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté. Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle, parlée sur 5 continents qui nous ressemblent et nous rassemblent. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français.
Cette année, confiez votre peau aux Cliniques Viva, la référence en soins médico-esthétiques à Québec. Acné, texture, fermeté, hydratation, éclat, les Cliniques Viva ont les meilleures technologies pour répondre à vos besoins. Découvrez leur promotion de début d'année en planifiant votre consultation sans frais. CliniqueViva.com.
Vivez à quelques pas de tout. Appartements urbains, des condos locatifs à Sainte-Foy, Montcalm, Loretteville et Lévis. Fini les recherches à ne plus finir. Contactez notre équipe proactive et efficace pour trouver votre prochain milieu de vie. Simple de même. Appartementurbain.ca. La vie locative à l'échelle humaine. À la recherche d'une activité originale pour la semaine de relâche, BeFly est de retour aux Galeries de la Capitale. Vivez une expérience magique en famille, entourée de centaines de papillons en liberté. Soyez émerveillés par BeFly, le rendez-vous magique de la relâche. Réservation bfly.ca.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir.
Alors voilà, c'est tout pour nous en ce jeudi soir. Ça a été un plaisir d'être avec vous autres et l'excellent Jacques Rougeau, un des frères Rougeau, de la grande famille Rougeau, des gens qui ont fait de la lutte une bonne partie de leur vie puis qui continuent de s'impliquer. On a eu le temps de jaser d'Hulk Hogan puis de Jean Ferré. À noter que le podcast sera disponible demain matin sans faute, donc je me chargerai de le mettre directement sur le site de Boulevard, blvd.fm. Et ben c'est ça, je vous laisse là-dessus. Donc, actuellement sur Québec, neige un peu à certains endroits. Faites attention sur la route, on me dit que c'est encore glissant. Parfois, minimum de moins 12 pour ce qui est de ce soir et cette nuit. Pour ce qui est de demain, vendredi, ça sera ensoleillé avec un maximum de moins 2. Samedi, nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 4 degrés. Et dimanche, ben, ce sera ensoleillé avec un maximum de plus 4 degrés. Donc, je souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et l'excellent Max et son podcast de sport arrivent avec tous ses amis dans les prochaines minutes. Salut, bye bye.
Marceau, le soir. Le soir.
La gestion des repas simplifiée? Oui. Avec Tout Cuit qui vous offre de savoureux repas prêts à manger, livrés gratuitement de leur cuisine à la vôtre sans abonnement. Choisissez vos boîtes repas thématiques ou vos plats individuels et c'est réglé. Toutcuit.ca, une division du groupe Je reçois.
1-1-0-0-0-7-4-2-0-1.
82-68-99-49-84.
55-80-96-36-01.
La Régie du bâtiment du Québec, c'est beaucoup plus que des numéros de licence d'entrepreneur. C'est avant tout un organisme qui veille à la protection du public en contribuant à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Assurez-vous que votre entrepreneur a sa licence.
Vous êtes tanné de payer des milliers de dollars en frais de gestion sur votre portefeuille d'investissement de plus de 100 000 $? Inscrivez-vous au webinaire « Avoir su plus tôt » de Marc Gingras, propulsé par l'École d'initiation au placement. Apprenez à devenir investisseur autonome à l'aide de solutions qui vous permettront de sauver sur les frais de gestion et réinvestir cet argent de manière efficace.
Avoir su plus tôt,
Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec l'argent payé en trop. Inscrivez-vous au webinaire sur avoirsuplutôt.com.
Boulevard 102.1. On est capable de vous parler de presque tout.
Je voulais y aller avec quelques conseils de base d'usage. Mangez pas des Tide Pods. Deuxième recommandation, faites pas cuire votre poulet dans du sirop contre le rhume.
Le NyQuil.
Oui. Faites pas ça. Pour le reste, on s'est entouré de pros qui connaissent leur affaire.
Notre ami François Bourque du Soleil est avec nous autres.
Antonine Iaccarini, elle est au bout du fil.
Hey, Des, c'est un plaisir de te retrouver. C'est un peu ça qu'on va aborder aujourd'hui avec la psychiatre Caroline Gagnon.
Boulevard 102.1.
102.1.
C'est plus que du rock.
Envie de repousser vos limites? C'est possible grâce à Adrenaline Sport et TY Moteur. Passez au magasin de Québec ou Lévis et voyez comment vous pourriez dominer la nature. Le VTT Can-Am Outlander a tout ce qu'il vous faut pour rehausser vos aventures et obtenez jusqu'à 500$ de rabais sur certains modèles 2022 sélectionnés. Visitez Adrenaline Sport et TY Moteur à Québec et Lévis pour prendre la clé des champs sur un véhicule Can-Am conçu pour vous transporter partout. Visitez votre concessionnaire autorisé BRP pour plus de détails.
Du mercredi au samedi, revivez la frénésie des années 80-90.
Midnight Blue.
La seule discothèque en ville à vous offrir un nightlife digne des années 80-90. Le mythique Midnight Blue. Dans le complexe Phoenix du Parvis, au cœur de Saint-Roch. PhoenixDuParvis.com.
L'entreprise que vous avez bâtie, en vous couchant un peu trop tard et en vous levant beaucoup trop tôt, mérite d'être bien protégée. Optez pour l'assurance qui a votre entreprise à cœur avec Desjardins Assurance Entreprise. L'entreprise que vous avez bâtie, beau temps, mauvais temps, et même quand vous manquiez de temps, mérite d'être bien protégée. Optez pour l'assurance qui a votre entreprise à cœur avec Desjardins Assurance Entreprise.
Offrez-vous un milieu de vie qui vous ressemble près de tout, entre ville et nature. Le Wati, un projet de condo locatif distinctif sur Grande Allée, à quelques pas des plaines et du centre-ville. Unité disponible dès maintenant. Demandez une visite, lewati.com.
Vous souhaitez louer dans le secteur de Beauport? Vous devez visiter les condos locatifs La Station. Vous profiterez d'aires communes comme un lounge, un gym et une salle de billard. Vous êtes un amoureux de Beauport? Alors optez pour un bail à long terme à conditions avantageuses. Détails immeubleroussin.com.
Boulevard 102.1, c'est votre radio rock.
Boulevard 102.1.
Les groupes de l'heure, les chansons qui écrivent l'histoire du rock. C'est ici que vous les entendez.
C'est bon, ce tune-là, hein, Audrey?
C'est bon. C'est ma tune.
Je te dirais qu'en général, là, on devrait faire de l'image sonore où Audrey fait juste dire « Hey, c'est bon, ce tune-là. »
C'est bon, ce tune-là.
C'est bon.
Là où on vous garde informé sur la musique.
Parce que, de façon générale, sont bonnes nos tunes.
Mais aussi, 102.1. Sur un paquet d'autres sujets d'actualité.
Et Max et moi, on porte fièrement la brassière.
C'est horrible.
Des gens qui disent, je vais garder Twitch fermé aujourd'hui si ça me dérange pas.
On est encore les citoyens les plus imposés au niveau de l'essence en Amérique du Nord.
Capoté quand tu vas. Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, très, très fier de vous présenter le premier épisode de mon nouveau podcast, La Dérape, à Boulevard 102.1. Et pas le choix de commencer en vous parlant du commanditaire du podcast. Tu sais, quand tu parles de sport, tu penses à être dans un aréna, qu'est-ce que tu as le goût de manger? De la bonne poutine. Et la meilleure poutine à Québec, ça se trouve du côté de la poutinerie. On parle de 7 sélections de sauces, 38 choix de poutine. On parle là de 260 variétés différentes. Vous pouvez créer votre poutine qui va vous plaire à vous. Une expérience gastronomique qui est vraiment unique. Les portions sont très généreuses. Les poutines sont délicieuses. Il y a un grand territoire de livraison. Un service qui est rapide, évidemment, de qualité. C'est ouvert à tous les jours à partir de 11h. Du dimanche au mercredi, c'est ouvert jusqu'à 23h. Mais ça, c'est rien. Le jeudi, c'est ouvert jusqu'à 1h AM. Un petit creux après une sortie au bar le vendredi ou le samedi, c'est ouvert jusqu'à 2h AM. La poutinerie, c'est la référence poutine à Québec là, depuis 15 ans. 292 Marie de l'Incarnation, lapoutinerie.com. On vient au podcast. Très, très fier de vous présenter ça aujourd'hui. La Dérape avec mes invités Pierre-Luc Gilbert et Alexandre Bonneau. On parle repêchage de la LNH et je pense que vous allez ben triper. Bon podcast.
La Dérape, c'est de l'émotion.
Hey, tu vas te péter la gueule, mon tabarnak!
De l'émotion.
Tu t'es fermé, tabarnak?
Ouais, ben de l'émotion.
Ah ouais!
La Dérape. En direct de la passerelle, voici Max Larouche.
Come on, coach.
Une présentation de la Poutinerie. Avec plus de 260 variétés de poutine au repêchage, t'as en masse de choix pour plusieurs rondes. Le plus grand choix de poutine à Québec, c'est la Poutinerie.
Le podcast La Dérape, c'est parti. Puis je suis très content parce qu'aujourd'hui, pour le premier épisode, j'ai le plaisir d'être assis à la table avec deux individus qui, au sein de Leclerc Communication, sont des gens avec qui j'aime beaucoup jaser dans les corridors de hockey, souvent des discussions animées qui peuvent durer plusieurs minutes. Et ben, c'est le fun d'avoir des opinions souvent qui vont pas dans le même sens. Puis c'est un peu le, d'ailleurs pourquoi le podcast s'appelle La Dérape. Ça se peut que de temps en temps, ça dérape puis qu'il y ait beaucoup d'action. Alexandre Bonneau, Pierre-Luc Gilbert, bienvenue à La Dérape.
Salut Max.
Merci, salut. Content d'être avec vous autres, les boys.
Yes, puis c'est le fun aussi parce que là, vous êtes là pour le premier épisode. Vous ne serez pas nécessairement là à tous les épisodes, mais vous allez revenir. Du moins, c'est le plan. Il faudrait vraiment que ça vire mal aujourd'hui pour que vous ne reveniez pas. Vous êtes averti.
On ne sait jamais.
Avant de se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on permettre aux auditeurs d'apprendre à vous connaître un petit peu j'ai envie d'appeler ça votre background sportif. Depuis quand vous suivez le sport? Fait que présentez-vous, vous avez quel âge et peut-être me faire un petit résumé là, de ce que vous aimez dans le monde du sport.
Pierre-Luc, à toi les honneurs.
Salut, moi c'est PL. Je suis un tripeux de sport depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai commencé en lisant les statistiques dans le journal le matin en mangeant mes céréales, parce que dans le temps, Max, toi t'as pas connu ça, mais on n'avait pas de tablette le matin. On fallait lire soit derrière la boîte de céréales ou soit lire les stats. Donc j'ai toujours été un grand fan de ça, un grand fan du Canadien dès mon jeune âge. Donc j'ai toujours écouté le hockey, puis plus large que ça, le golf, la F1, j'ai toujours même le curling pendant les Olympiques. Donc je suis vraiment un tripeux.
Un vrai
tripeux. J'ai toujours aimé faire des poules, j'ai toujours aimé embarquer dans ces discussions-là aussi mouvementées qu'elles puissent être, parce que déjà en partant, quand tu es un fan du Canadien à Québec, tu peux toujours trouver quelqu'un quelque part qui va trouver le moyen de toujours descendre le Canadien, bon, pas bon. Mais par contre, je peux me qualifier du moins pour un... Je suis pas un fa-fan, si on veut, dans le sens où je suis quand même réaliste quand je regarde le Canadien. Là, je ne tombe pas en amour avec les joueurs.
Ça dépend.
Je suis capable d'avoir, je pense, une idée qui est quand même relativement terre à terre, malgré le fait que je tripe sur le Canadien.
Monsieur Bonneau?
Alexandre, directeur financier chez Leclerc Communication, ce qui est complètement à l'inverse de ma passion du Canadien, qui est un peu liée quand même, parce que moi, j'adore le hockey, mais j'adore aussi tout ce qui est statistique, mais aussi beaucoup les salaires, les contrats, la convention collective. C'est quand même quelque chose que, de par ma nature, de ce que j'aime un peu, mon côté plus chiffre, m'intéresse beaucoup. Puis la passion du hockey m'est venue vraiment par hasard, parce que ma famille n'était pas pantoute dans le hockey. Mes parents, ma mère, mon frère, personne n'écoutait ça. Mais moi, naturellement, quand j'étais jeune, je me rappelle pas d'années où que j'écoutais pas le Canadien par moi-même. Ça m'a piqué ma curiosité. J'ai accroché là-dessus depuis... Je suis tout jeune. C'est peut-être aussi en jouant aux jeux vidéo quand on est jeune. Les premières consoles, la NHL 97.
Tu vois la différence d'âge.
Oui, parce que 10 ans de moins que Pierre-Luc, 32 ans. Fait que ça fait quelques années de moins, mais quand même. Fait que ça fait vraiment depuis que je suis tout jeune que je suis le hockey, mais aussi un peu tous les sports, vraiment. Les Olympiques, c'est toujours le fun à voir. Le football aussi. Mais le hockey demeure vraiment ma plus grande passion. Puis je beaucoup de gens qui comprennent pas à quel point j'aime ça, mais en même temps, c'est juste beau d'avoir une passion puis de la suivre. Fait que c'est bien le fun de faire ce podcast-là avec vous autres là-dessus.
Mais c'est intéressant ce qu'ils disent, une chose, je réalise... Tu sais, on parle de les salaires, hein? les salaires des joueurs, la masse salariale, c'est quelque chose qui est apparu, quoi, c'est en 2005, 2006, dans ce coin-là? 2004, en tout cas. Ça a apporté une toute autre dimension dans la discussion. T'sais, maintenant, le fait d'avoir le plafond salarial qui fait maintenant que le salaire a une importance, ça en avait moins un peu à l'époque, outre de dire au salaire que tu commandes, tu devrais être capable de livrer plus. Maintenant, ça a un impact qui est quand même majeur. Puis je pense que dans la grande majorité de nos discussions, c'est ce qui vient en ligne de compte.
Okay.
Oui, mais à ce contrat-là, à ce prix-là, avec les années qui restent, avec l'âge qu'il y a, ça a vraiment ouvert la discussion. Puis c'est ce volet-là qui vient qu'on devient encore plus venir dans le macro de ça, puis dans une analyse plus profonde, puis qu'à un moment donné, tu discutes avec du monde qui aime le sport plus en surface, tu fais comme, bon, OK, là, je suis peut-être débile, là, mais...
Ouais. mais ça amène une touche aussi, le fun d'ajouter tout ça, de tous ces métriques-là qui complexifient les discussions, mais plus c'est complexe qu'on tripe sur quelque chose, plus on a du plaisir à en discuter, parce que toujours...
Plus tu pousses ton analyse.
Ben, c'est ça, il y a toujours des niveaux de complexité à comprendre. Fait que...
Puis ce qui va être intéressant du podcast La Dérape, c'est qu'on va... Tu sais, oui, on va beaucoup parler de hockey, là, on n'a pas le choix, c'est le sport au Québec, puis, mais on va aussi aborder du football éventuellement, du basket aussi, on va avoir un super épisode là-dessus. Aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre sur le hockey, avec quelque chose qui justement a tendance peut-être à attirer les partisans les plus fous puis les plus affamés de hockey, le repêchage. Le repêchage, on le sait, qui a un impact majeur sur les équipes. Là, à la base, normalement, c'est comme ça que tu bâtis ton équipe. Oui, il y a les Golden Knights de Vegas qui ont un peu décidé de faire carrément autrement. Puis eux, les espoirs qu'ils repêchent, les échangent plus souvent qu'autrement. Les choix repêchage, même chose. Puis ils ont décidé d'y aller comme ça. Puis ça peut se défendre.
Ça aura eu un résultat à court terme intéressant. On verra à long terme.
Exact. Mais, tu sais, on dit souvent qu'on bâtit par le repêchage. Et un exercice qui est toujours bien le fun à faire, c'est un redraft. Donc, et si on refaisait tel repêchage avec les données qu'on a aujourd'hui? Puis, faire ça, tu peux pas vraiment à court terme. Faut que tu attendes au moins 5-6 ans. Puis encore là, tu sais, le gars, il repêchait à 17-18. 5-6 ans après, il est rendu à 23-24, il y a encore des choses qui peuvent changer. Pensons à Tage Thompson du côté de Buffalo qui a explosé la saison passée. Lui, dans un redraft, il n'y a pas longtemps, il était considéré comme une déception. Puis là, ben, il serait dans les tops de son année. Donc là, j'ai choisi une année de repêchage qui a été particulièrement marquante pour les partisans du Canadien. Puis il y a des débats intéressants. L'année 2018... Donc, l'année de Jesperi Kotkaniemi, hâte de voir où il va se placer dans vos redrafts respectifs. Mais la façon qu'on va procéder, c'est super simple. Tour à tour, on va passer lequel a été le choix au repêchage. Et ensuite, messieurs, on va y aller avec nos propres choix. Au premier rang, on the clock, les Sabres de Buffalo. Et ceux qui regardent en vidéo peuvent voir là, que j'ai mis ma casquette des Sabres pour l'occasion aujourd'hui. Le choix des Sabres qui, assez cette époque-là, était unanime. Il y a un défenseur suédois qui sortait du lot dans ce repêchage-là, puis je me souviens qu'à ce moment-là, tu disais, le deuxième, qui était Andriy Svechnikov, peut-être qu'il pourrait... Mais tu sais, c'était... Il n'y a personne qui s'attendait à voir quelqu'un d'autre que Rasmus Dahlin repêché au tout premier rang. Et c'est ce qui est arrivé. Dans ma simulation de repêchage, dans mon redraft, j'ai réfléchi. J'ai pas eu le choix de laisser Rasmus Dahlin. Et j'ai hâte de voir si un de vous deux va oser placer quelqu'un d'autre. Commençons peut-être avec PL.
J'ai réagi de la même manière que toi. J'ai gardé Rasmus Dahlin pour une raison excessivement simple. Un défenseur aussi fiable et aussi productif, t'as pas plusieurs chances de mettre la main là-dessus. Et il faut pas oublier que c'est quand même le joueur qui a le plus de temps de glace aussi dans un match, ton premier défenseur. Donc je pense que ça a été un excellent choix. C'est sûr que, comme tu dis, il faut attendre quand même quelques années de voir comment ça va se dérouler, parce qu'il y a été un temps où, à un moment donné, malgré qu'il y avait une performance intéressante, là, avec des saisons quand même relativement productives, entre guillemets, c'est vraiment cette année qui a explosé. Si on avait fait probablement le même podcast au début de l'année, en septembre avant le début de la saison, peut-être que le choix aurait été différent. Mais à l'heure où on se parle avec une saison en 55 matchs avec déjà 62 points, là, c'est plus d'un point par match pour un défenseur dans une équipe qui, pour l'instant, n'est même pas encore dans les séries, si je ne me trompe pas, là, qui n'est pas si productive, entre guillemets. Ça reste que c'est un excellent choix. Tout un joueur, quand même, un joueur de 6 pieds 3, au-delà de 200 livres, mobile, rapide, maintenant bien entouré. Il ne faut pas oublier aussi, il faut que tu aies des gens avec qui tu peux produire. Chose qu'il a cette année maintenant avec des jeunes qui sont en éclosion. Donc, clairement, pour moi, ça reste un premier choix.
Monsieur Bonneau?
Bien, beaucoup me connaissent comme l'avocat du diable, surtout Pierre-Luc, oui. Dans nos discussions.
Tout ce qu'il fait, lui, il attend de savoir ce que je pense pour dire complètement le contraire.
Bon, j'ai décidé d'y aller. Vos arguments sont forts, puis il y a des bonnes raisons de prendre Dahlin en premier, mais j'ai dit, je vais prendre Tkachuk en premier, puis j'ai des bons arguments.
Même pas Svechnikov.
Non, Brady Tkachuk, puis effectivement, Svechnikov aussi, mais pour moi, Tkachuk représente le joueur que tu veux pour... porter ta culture d'équipe, pour être le porte-étendard de ton organisation. Puis c'est ce qui est. C'est un joueur qui est tannant, qui va se battre pour ses coéquipiers, qui va pas avoir peur de prendre la parole dans le vestiaire, remettre les gens à leur place, d'amener tout le monde avec lui dans la bonne direction. Ça, des fois, je trouve qu'on a tendance à le négliger des fois quand on est de l'extérieur. On regarde beaucoup les statistiques. Puis c'est vrai que c'est important, les statistiques. Puis c'est avec des buts qu'on gagne des matchs de hockey. Mais Brady Tkachuk a ce hit factor-là que peu de joueurs ont. Puis si j'avais à refaire ce repêchage-là, je prendrais Tkachuk pour ça, parce que c'est quand même un joueur qui produit aussi offensivement. Ça reste un gars qui va faire des 35 buts par année, un point par match. Puis le hit factor, c'est rendu en séries éliminatoires. Quand il va être rendu en séries éliminatoires, moi, je pense que ce gars-là va aller à la guerre puis va t'amener jusqu'à la Coupe Stanley. Je dis pas que Dallin ne le fera pas, mais pour moi, Tkachuk, c'est là qu'il va vraiment valoir son pesant d'or. Ça va être rendu en séries éliminatoires. Puis c'est ça, l'objectif du hockey, ben, c'est de gagner la Coupe.
Parce que pour l'instant, tu ne l'as pas vu en séries éliminatoires.
Non, ça, c'est...
OK. On suppose qu'il va tomber être bon.
Oui, mais Dallin non plus. Fait que rendu là, c'est... Mais c'est pour ça que j'ai un petit penchant pour Brady Tkachuk.
C'est intéressant parce que je me souviens, à son année de repêchage, évidemment, je le disais d'entrée de jeu, c'est une année de repêchage que j'ai choisi pour un élément en particulier. Le Canadien repêchait troisième, puis il y avait un gros débat sur qui le Canadien allait repêcher. Puis on pourra y revenir un petit peu plus tard sur le cas Kotkaniemi et les différentes comparaisons, les choix des partisans à cette époque-là.